Industrialisierung. Es waren auch viele junge Leute da und es gab viele Maschinen, die viele Arbeitsabläufe abgenommen haben. Und heute sieht es ganz anders aus. Warum sollte das nicht auch in Afrika möglich sein, dieser Wandel?
Peut-être, Moustapha, je vais me positionner sur votre argumentation avec Mariam et toi. Mariam, prenez l'exemple sur la Chine. Chine qui était un pays en voie de développement vers les années 90 et qui actuellement, actuellement on dit même est-ce qu'il n'a pas la première puissance économique mondiale. Ensuite, Moustapha me parle de l'Europe au lendemain de la crise de 1929. Et actuellement, l'Europe, car nous, Afrique, on a toujours notre yeux vers l'Europe. Mais donc, quel est le problème? Moi, je me dis que aussi, nous, on n'a pas la volonté de se créer nous-mêmes.
Exactement.
Nous, on veut, parce que le développement, c'est un processus. Nous, on veut quitter, on veut brûler les étapes.
On veut la facilité.
Pas, même pas la facilité, mais on ne veut pas débuter. Toute chose demande un début.
Ça, c'est vrai.
Actuellement, est-ce qu'il n'y a pas des jeunes Africains qui sont en train de créer des choses qui sont bonnes pour l'agriculture?
Oui. Il y en a beaucoup, mais ils ne sont pas soutenus par l'État. Le budget national des pays africains sont vraiment très, 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 très bas. Le budget national, l'argent qu'on dispatche entre les ministériels, là, que ce soit le ministre de l'Agriculture ou le ministre de la Culture ou le ministère de la Santé, le budget qu'on leur donne, c'est minime. Il y a aussi manque d'informations et manque de formation aussi.
Ja, also wenn wir jetzt, Mariam hat da ja vorhin auch das Vergleich mit China angebracht, 90er Jahre auch eher ein Zustand des Entwicklungslandes und nun einer der führenden Weltmächte, möchte man ja vielleicht sagen. Was ist mit Afrika? Afrika orientiert sich sehr nach wie vor auch nach Europa. Warum ist nicht der Zustand erreicht, dass Afrika sich selber entscheidet, jetzt anzufangen? Was ist mit der Jugend? Ist die Jugend da? Und Mariam sagt, ja, sie ist da und sie hat auch Ideen, aber sie wird nicht gefördert und sie wird nicht von den politischen Interessen gesehen. Und da gilt es darum, die Bildung auszubauen und das noch größer werden zu lassen. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass man es finanziell fördert. Und wenn das nicht gegeben ist, dann wird sich auch wenig verändern können.
Also ich will darüber ankommen. Un pays pour se développer doit créer ses propres moyens, ses propres ressources. Parce que nous, en Afrique, même si un jeune, c'est toi qui l'as dit même, il y a des jeunes qui ont commencé à essayer de créer des choses. Donc, si on prenait un jeune qui crée quelque chose dans l'agriculture, est-ce que la population, tantôt vous me parlez d'une mauvaise politique gouvernementale, mais aussi la responsabilité de la population, est-ce que le peuple est prêt à prendre des choses qui sont produites par les jeunes africains?
Il y a ça aussi, c'est nous sommes complexés aussi devant les choses qui viennent d'ailleurs. Au lieu de consommer nos propres produits, on veut consommer les produits venus d'ailleurs parce qu'on pense que les produits qui viennent d'ailleurs sont plus meilleurs que nos produits. Donc il y a ça aussi.
Ja, also es gibt auch eine ganz große Orientierung von der Bevölkerung, sich an Dinge, an eher importierten Produkten, die einzukaufen. Ja? Si je me rappelle, quand j'étais au Sénégal, il y avait les grandes associations qui étaient français. C'était de si tu voulais aller faire les courses, si tu voulais téléphoner, si tu voulais aller faire du pétrole, c'était des grandes associations françaises là-bas. Et les gens achetaient seulement là-bas, et pas dans les petits magasins, ou etc.
Et actuellement, le cas, je crois, c'est plus pur. Ça fait longtemps que je ne suis pas au Sénégal, mais maintenant, les familles même se prennent le luxe pour aller vers des supermarchés qui sont occidentaux.
Oui.
Alors que la culture, c'était les petites boutiques qui étaient auprès des maisons. À chaque fois, parfois, tu as un problème. Quand tu as même un problème, tu peux aller là-bas sans endetter. Mais maintenant, ils ont le complexe d'aller dans ces boutiques. Ils préfèrent aller dans les grands magasins, les grandes surfaces qui sont le plus souvent qui des produits occidentaux.
Ja, also früher war es auch eher so üblich, dass man in die kleinen Läden nebenan gegangen ist und die Sachen geholt hat, die man brauchte, sei es jetzt ein täglicher Einkauf oder auch ein kleines Gespräch oder wie auch immer. Und jetzt ist es halt auch aus der Mode gekommen. Es sind nur noch eher größere Läden, dass die Leute in die großen Läden gehen und dort konsumieren und kaufen. Und diese großen Läden haben ihren Sitz, also jetzt im Senegal, meistens in Frankreich oder von Ländern außer anderswo.
Oui, ça fait longtemps aussi qu'on n'est pas en Afrique. Moi aussi, tant aussi bien que Marem. Peut-être on va laisser Moustapha nous parler aussi sur ce problème. La preuve, un état, pourquoi l'Afrique ne peut pas se développer dans ce concept. Est-ce que actuellement les jeunes sont en train de créer et que la population les soutient à vouloir acheter ce qu'ils produisent? Parce que tous les pays là qu'on voit, surtout quand on se regarde, quand on parle de Chine, la Chine s'est développée. Mais tout ce qu'ils consomment, c'est eux qui le produisent. Mais tel n'est pas le cas, je crois, actuellement chez nous. Moustapha, quel est l'environnement par rapport à la situation économique même en Afrique?
Schauen wir doch nochmal in dem Vergleich zu China. China konsumiert das, was dort produziert wird. Warum ist das in Afrika nicht so, Herr Camara?
Voilà, Ousmane. L'émission c'est pertinent, hein. Donc ça fait un diagnostic froid de la situation en Afrique, des problèmes de développement. Mais la question elle est pertinente sur pourquoi l'Afrique ne consomme pas ce qu'elle produit. C'est par rapport d'abord, en tout cas moi je pense que c'est d'abord par rapport à la colonisation. Vous savez, la colonisation, c'est l'assimilation. C'est-à-dire qu'on vous montre du doigt les choses qui ne sont pas chez vous. Alors que chez vous, avant que la colonisation n'arrive, il y avait déjà un aspect économique et un aspect social. C'est-à-dire que les gens portaient des habits. Comment ils faisaient pour porter des habits? Comment ils portaient des chaussures? Comment ils faisaient pour porter des chaussures? Maintenant, avec la colonisation, on vous montre des chaussures qui ne sont pas ce que vous connaissez, que l'Afrique a connu. Des vêtements que l'Afrique n'a pas connus. C'est pourquoi le modèle du Burkina Faso est très intéressant à l'avènement de Thomas Sankara.
Ja, also das ist ja wirklich eine sehr aufschlussreiche Sendung, wenn es auch sehr kalte oder drastische Diagnosen sind. Wir müssen uns vor Augen führen, warum ist es so, dass Afrika nicht das konsumiert, was es selber produziert. Und da kann man nicht von der Kolonialisierung reden. Ja? Eine Kolonialisierung bringt auch eine Assimilierung mit sich. Also das heißt, dass die Leute sich anpassen an denen, was ihnen vorgelebt wird. Und das bringt zum Teil mit, dass die Menschen ihre Identitäten zum Teil aufgeben. Ja? Sei es in der Mode, dass sie sich anpassen an die Sachen, die ihnen halt vorgegaukelt wurden oder sich nach Europa wenden. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Identitätskonflikt, der auch allgemein allumfassend ist.
Le deuxième point, Ousmane, c'est la consommation locale. C'est-à-dire que comment la consommation locale? C'est-à-dire que pourquoi allons-nous importer du riz? Pourquoi allons-nous importer du maïs jusqu'en URSS? Pourquoi allons-nous importer du blé pour faire notre pain? Pourquoi importer des tissus alors que nous pouvons cultiver le coton? Et c'est comme ça ces questions qui sont nombreuses mais qui ne trouvent pas de réponse. Et pourquoi ces questions ne trouvent pas de réponse? C'est par rapport à l'accessibilité de la formation, comme disait tout à l'heure Marianne Dembélé, à l'accès à l'information pour nos jeunes. Parce que pour pouvoir faire quelque chose, il faut avoir l'information. Et quand on a l'information, il faut aller vers l'information et se faire former. Et maintenant, si on a une formation, ça ne suffit pas. Parce que si on produit, par exemple, de l'arachide en toute petite quantité, mais on ne peut pas avoir de l'arachide accessible à un prix où tout le monde peut acheter. Mais précieux, disait l'autre, que ce qui est rare. Donc, si on a une petite quantité, une faible quantité, d'arachide, mais ce n'est pas accessible à tout le monde. Alors, le prix est cher. C'est là où la Chine, l'Europe, la Corée développent. Ils mettent une surproduction sur un produit pour que ça soit accessible. Mais non seulement ça soit accessible, mais ils ont trois espèces de produits sur un seul produit. C'est-à-dire qu'il y a un produit accessible pour les gens qui ont une bourse moyenne. Il y a des produits accessibles. Sur le même produit, il y a un autre prix pour les gens qui ont moyennement, ils peuvent acheter. Mais il y a le grand standing aussi. Voilà donc le problème de l'Afrique. Il faut qu'on arrive à faire une agriculture expansive, une agriculture en grosse quantité, pour que tout le monde ait accès. Si on n'arrive pas à faire ça, mais on a des prix chers et on n'a pas l'accès aux produits.
Und zweiter Punkt, der auch eine wichtige Rolle spielt, ist der Konsumierung, des Konsums. Ja? Also warum importiert Afrika Reis? Warum importiert es Mais? Warum Baumwolle? Warum wird das nicht vor Ort angebaut? Weil es ja auch möglich wäre. Warum gibt es auf diese Fragen keine Antwort? Und das ist da liegt der Ursprung, dass es keinen Zugang oder zu wenig Zugang zu Bildung gibt. Denn und nur Bildung alleine reicht auch nicht. Weil selbst wenn man es dann schafft, das zu produzieren, dann sind das meistens kleine Mengen. Und kleine Mengen zu produzieren ist immer im Endeffekt auf dem Markt, dann ist das immer teurer. Weil es kann nicht mithalten mit der Überproduktion der chinesischen oder sonst wo importierten Produkte. Ja? Und dann gibt es ja auch diese unterschiedlichen Staffelungen von Produkten. Einmal gibt es das Produkt in billig und dann gibt es das Produkt in noch teurer. Aber dieses Ganze ist nur zu beantworten mit einem großen, ganzheitlichen, landwirtschaftlichen Ausbau. Ja.
Oui, c'est ça le problème. On a toujours le problème de consommation. Nous importons plus que nous exportons. Oui. C'est rare de voir un pays qui exporte un produit, même. Parce que en termes d'exportation, comme on le dit. Mais peut-être on va faire une petite pause musicale et revenir, parce que vous avez évoqué aussi un autre point. Parce que tout ce qu'on parle, sans parler de l'éducation, ce n'est rien.
Ouais.
L'éducation est la base de tout. Donc, faisons une pause musicale, écoutons la musique de Youssoundou, qui est un chanteur sénégalais, et parler aussi des pros de l'éducation en Afrique.
Ja, wir machen nochmal eine musikalische Pause, die aber auch auf das eingeht, wovon wir viel umschweift haben, nämlich um das Thema Bildung. Wir hören Youssoundou, ein senegalesischer Sänger, in dem es auch um eben genannte Bildung geht. Viel Spaß dabei.
Avril. Le choc de 2015.
Je te quiero, tu butin bonito, la
Chers auditeurs de la Radio Corax, on va revenir à notre thème après cette pause musicale, parce qu'on était le thème d'aujourd'hui, ça parle sur le développement de l'Afrique et les infrastructures, un thème que Marem nous a proposé.
Ja, hallo liebe Common Voices, da sind wir wieder. Das waren Klänge von Youssoundour aus dem Senegal und wir bleiben beim Thema. Wir sind nämlich heute, stellen wir uns der großen Frage nach Afrika, ein Kontinent im Aufbruch und seiner Entwicklung, eingebracht von unserer Gästin Mariam heute hier im Studio.
Donc pour cela, je vais emprunter un proverbe wolof qui dit que pitié nga te kaw, xelam mi ngi ci souf. C'est-à-dire en français, l'oiseau est sur les arbres, mais son esprit est en bas.
Mm-hmm. Und wir fangen gleich an mit einer Redewendung auf Wolof, die besagt, der Vogel ist auf dem Baum, aber sein Bewusstsein ist am Boden.
Pour vous dire qu'on est là, mais aussi nous pensons aussi à notre frère africain, à notre fier continent africain.
Und das meint, wir sind zwar hier in Europa, aber das will nicht heißen, dass wir nicht auch an unsere Brüder und Schwestern in Afrika denken.
J'aimerais ajouter quelque chose. Les Africains ne sortaient pas beaucoup autant comme maintenant. Parce que on avait tout, mais là tout est reparti à zéro. On sort parce qu'il n'y a pas assez de travail, il n'y a pas aussi de l'éducation du tout. L'école africaine ou surtout l'école malienne est bafouillée, il n'y en a pas. Donc sans l'éducation, comment les jeunes peuvent rester là-bas? Parce qu'ils ne sont pas formés et ils sortent pour venir chercher ailleurs. Alors que si on leur donne la possibilité d'être formés là-bas et aussi leur donner la possibilité de créer, d'entreprendre là-bas, il y aura moins d'immigrants en Europe. Mais ce qui est un peu choquant pour moi, avant, je connaissais, quand nous on était petits et quand on était à l'école, on nous disait que le pétrole du Mali, le Mali ne pouvait pas le faire sortir sans l'accord de l'Algérie, parce que le premier président du Mali avait signé avec le président algérien, parce que nos deux troupes pétrolières sont à côté, l'un ne peut pas puiser sans toucher au pétrole de l'autre. Mais là, je viens d'apprendre aussi que le moment de faire l'indépendance en Afrique, surtout entre le Mali, quand la France, parce que le Mali a été colonisé par la France, donc quand la France partait, on nous a fait signer, on a fait signer à l'époque les dirigeants maliens un papier comme quoi, oui, on donne l'indépendance au Mali, mais la terre reste pour nous. C'est comme si nous, on est, et puis je sais pas qui a signé ce genre de choses aussi, nos dirigeants. C'est comme si nous, on vient ici, en Allemagne ou en France, en Italie, on s'intègre, on colonise. Par exemple, l'Angleterre a colonisé les États-Unis, mais l'Angleterre ne peut pas réclamer ou dire aux États-Unis, la terre, ça m'appartient. Et là, on dit que même parmi le problème entre le Mali et la France, il y a la France qui réclame, qui a amené un papier comme quoi le nord du Mali appartient à la France. Donc, il y a...
c'est une information.
Ja, also wir haben ja schon heute viel über die instabilen Zustände des afrikanischen Kontinents geredet, ein Beispiel von Mali, wo Krieg herrscht, und das führt natürlich dazu, dass viele Menschen die Flucht ergreifen und aus dem Land fliehen, und dann kam jetzt noch das in Gespräch, dass so absurde Zustände halt herrschen. Mali kann zum Beispiel selber nicht sein eigenes Öl abbauen, auch weil ihnen einerseits die Maschinen dazu fehlen, darüber hatten wir ja davor schon gesprochen, aber teilweise auch absurde Verträge noch im Umlauf sind, die dann zum Beispiel besagen, dass man dafür dann aber auch das Einverständnis von Algerien braucht, weil die ähnliche Ölvorkommnisse haben an ähnlichen Stellen, oder solche Verträge, die besagen, die auch aus Kolonialzeiten sind, dass Mali, Frankreich gesagt hat, ja, ihr dürft zwar unabhängig sein und ihr dürft hier unterschreiben, aber die Erde bleibt trotzdem unser Eigentum, oder eben solche Sachen, die nach wie vor noch eine Rolle spielen und auch einen bitteren Beigeschmack haben und dieser Entwicklung natürlich extrem im Wege stehen.
Peut-être, madame, je vais te dire quelque chose. Car si on veut s'attarder encore sur les causes ou bien le tort que la France nous a prévalu à cause de la colonisation, je pense qu'on ne va pas bouger même. On ne va même pas se développer. Mm-hmm. Parce que moi, je pense qu'actuellement, on doit même oublier ce problème et essayer de trouver des solutions.
Exactement. Ouais. Je suis d'accord
avec
toi.
Parce que le plus dur de la colonisation, c'est jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de consommer? Ce qui est plus mondial, le plus mondial pour une économie, c'est l'argent.
Ouais.
Mais l'argent que nous consommons pour les pays de la CEDEAO, combien de pays? 15 pays mm-hmm. auparavant, avant que les pays de l'AS sortent.
Mm-hmm.
Eux, nous consommons le franc CFA.
Mm-hmm.
Mais qui produit ce franc CFA?
C'est la France.
D'où vient ce franc CFA? C'est un État qui produit pour 15 États l'argent qu'ils doivent utiliser pour leur économie. Et puis, c'est pas seulement la production. Mais chacun des États doit verser encore à la France
une caution,
50% de ses réserves obligatoires qui seront gérées dans les comptes français.
Ja, also es geht um postkoloniale Abhängigkeiten und die Frage, wie kann man die Kolonialisierung, wie kann der afrikanische Kontinent die Kolonialisierung überwinden? Ja, und da hat Usman nochmal das Beispiel, es gibt ja die Währung Franc CFA. 15 Länder haben den Franc CFA, und mit jeden Ausgaben, es wird immer etwas an Frankreich entrichtet. Es gibt Steuern, die dafür abfallen, dafür, dass diese Währung dort herrscht, die nach Frankreich ausgeschüttet werden.
Il faut dissoudre ces conventions là parce que
man muss diese alten Verträge auflösen und was Eigenes einführen.
Parce que quand on parle de fait qu'on va, même moi je dis que même on doit les oublier, essayer de voir, de faire notre propre diagnostic pour aller maintenant vers l'avant. Parce que le mal est déjà parti. Ce qu'on dit que l'Afrique est mal partie, vu la colonisation. Donc c'est un des faits de notre retard.
Mm-hmm.
On est mal parti. Parce que nul ne peut pas dire que l'Afrique n'a pas de culture. Ou bien l'Afrique n'a pas de traduction. Nous avions bien notre culture et notre traduction. Mais aujourd'hui, on s'habille comme Européen, on pense comme Européen, on parle comme Européen. Donc, ce qui est la source de notre développement. Même la langue, ça va constituer une barrière pour notre développement.
Oui, pour la langue, je suis d'accord avec Ousmane, mais moi, pour l'habillement, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que l'Europe s'est développée en travaillant. Et nous, on n'aime pas travailler. Oui, c'est ça. Ce n'est pas l'habit, c'est le travail. Ça, c'est le travail, hein.
Pourtant, il y a beaucoup de gens qui travaillent toute la journée, je pense, non?
Oh oui, il y a beaucoup de gens qui travaillent toute la journée.
Mais ils ne reçoivent pas d'argent pour le travail. Pourquoi travailler si tu ne reçois pas d'argent?
Mais il faut que nous, on travaille, par exemple, on accepte, si j'ai dit on travaille, il faut donner la formation aux jeunes. Et il faut chercher les matériels. L'Europe, par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, ou quand il y a eu des trucs en Europe, tout était cassé. Mais ils se sont reconstruits. Comment? En travaillant. Et ils sont, jusqu'à présent, l'Europe est unie. Mais pourquoi l'Afrique n'est pas unie? Pourquoi nous, on ne travaille pas? Pourquoi, si Ousmane entreprend quelque chose, moi, je viens derrière Ousmane pour casser, parce que je ne veux pas que son nom devienne haut. Alors que les Européens, ils s'en foutent de qui va prendre le nom. Mais eux, ils voient le résultat. Le résultat pour le bien de la population. Et nous, on voit que notre propre nom et notre propre racisme.
Alors, de bien travailler ensemble. Also, okay, also ja, die Frage war, es ging viel um Identitäten, also um Kultur, um Sprache und so weiter, wo sich halt sehr viel, hatten wir auch davor schon gesagt, an Europa orientiert wird oder sonst wo und die eigene Identität so ein bisschen aufgegeben wird. Und das ist vielleicht auch eine, da hatten wir uns jetzt gerade so ein bisschen eine Diskussion angefangen, eine Frage der Arbeitsmoral. Ja, und es scheitert eigentlich, glaube ich, nicht an den individuellen Arbeitsansätzen, sondern an dem Gedanken, zusammenzuarbeiten. Und das ist so ein bisschen das Problem, das irgendwas aufzubauen und gemeinschaftlich irgendwie voranzuarbeiten und voranzukommen.
Tantôt tu as parlé de travail. Je me dis, oui. Donc, on doit travailler. Parce que, en termes de travail, parce que le plus souvent, il y a l'environnement qui fait aussi un effet sur nous. La façon dont nous travaillons ici, en tant qu'Africains en Europe, si on le travaillait en Afrique, je pense qu'on allait avoir plus de productivité simple au sens de déplacer.
Ja, und das ist vielleicht auch eine Definition von Arbeit. Also Ousmane hat es jetzt mal verglichen. Wenn man jetzt hier arbeitet, man ja theoretisch vielleicht von der Zeit her viel weniger als in Afrika, aber viel effizienter. Und wenn man diese Effizienz quasi dort anwenden würde, dann würde man sich auch vieles sparen.
Même si on vient ici, mais après on peut utiliser les expériences qu'on prend ici pour aller aider l'Afrique. On peut amener des projets de développement en Afrique étant des immigrés ici en Europe. Ou bien, oui, excusez-moi.
Es geht sozusagen auch darum, vielleicht auch gegenseitig zu lernen, ja, und nicht immer in diesen Abhängigkeiten zu sein, sondern sich vielleicht auch auf Augenhöhe zu treffen und voneinander zu lernen, wie Arbeitsprozesse vereinfacht oder effizienter gestaltet werden können.
Ja, le problème de d'eau potable, le problème d'eau potable en Allemagne, en Afrique, dans le village, on peut aussi chercher des gens pour faire le pompage, le forage. Faire le forage pour donner l'eau potable dans le village, ou bien.
Si, oui.
Trinkwasserzugang ist auch ein ganz wichtiger Grundrecht, ja, im Endeffekt da von den Erfahrungen vielleicht auch zu profitieren und eben mehr Brunnen einzubauen und so weiter.
Donc, par rapport, donc pour les causes, Moustapha, par rapport à toi, quelle est la cause majeur du sous-développement de l'Afrique. Parce que Marie me parlait, on doit travailler. Mais est-ce que c'est le problème, c'est seulement là-bas, la jeunesse qui doit travailler.
Mustafa, wie siehst du das hier? Wir haben jetzt gerade gesagt, die Jugend muss arbeiten. Was denkst du zu diesen, wenn du das hörst?
Oui, Ousmane, hein? Donc, j'ai bien écouté Marie. Je pense que c'est un tout, hein. Donc les causes en Afrique, par rapport au sous-développement, par rapport au ralentissement des activités économiques. Vous voyez un peu, on parlait tout à l'heure d'éducation
c'est tout.
Et de formation. Maintenant, Est-ce que nous, aujourd'hui, l'école, telle qu'elle a été laissée et faite par le colonisateur, est-ce qu'aujourd'hui, on doit continuer à accepter cette école et cette éducation? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est quelle est la priorité de l'Afrique aujourd'hui par rapport à sa formation et à son éducation? Ça, c'est le deuxième point. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, l'Afrique, par rapport à l'éducation et la formation, nos écoles sont devenues obsolètes. Elles sont erronées par rapport aux besoins de l'Afrique. Merci. Ça, il faut qu'on arrête un peu cette éducation et cette formation. Merci. À l'Européen colonisé, par rapport au colonisateur. Merci. Les priorités de l'Afrique aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'agriculture, développer son agriculture, développer, former ces jeunes par rapport aux besoins de l'Afrique. Mais surtout aujourd'hui, au développement de l'Afrique. Maintenant, ouais. Tu vois, à l'école élémentaire, au collège, au lycée et à l'université, mais on est dans le général, on n'est pas dans la formation professionnelle qui répond aux problèmes et problématiques de l'Afrique. Attends, et ça, c'est un problème.
On va revenir.
C'est le problème de l'éducation de l'Afrique. On va y revenir tout à l'heure.
Ja, sprechen wir noch weiter über die Unterentwicklung von Afrika und deren Ursachen. Ja, und da hatten wir schon ganz oft umschweift die Bildung, ja, und das Schulsystem. Wie und von wem ist denn das Schulsystem eingeführt worden? Auch von den Kolonialmächten, was nach wie vor besteht. In der vorletzten Sendung war es, glaube ich, dass wir jetzt darüber gesprochen hatten, dass Wolof jetzt erst in den Schulen überhaupt gesprochen wird und werden darf. Davor war es Französisch. Dass es nach wie vor eigentlich genauso abläuft, wie es von den Kolonialmächten eingeführt wurde. Dass wir viel mehr, dass Afrika viel mehr darauf ausgerichtet sein soll, in die Landwirtschaft auszubauen und die Bildung der Jugend auszubauen. Und dass die Schule da auch direkt richtig konkret ansetzt, diese Ziele darauf hinzuzielen und nicht so allgemein bleibt. Ja, es muss direkt, die Schule sollte da ausgerichtet sein, dass danach gleich klar ist, wie wird es weitergehen. Und da muss man reformieren.
Mais Moustapha, par rapport à l'éducation, moi je veux seulement, je donne un exemple. Par rapport à cet exemple, tu m'as fait l'analyse. Parce que c'est ce qu'on vit au Sénégal. Tu vas à l'école primaire. On commence à étudier, tu vois des enfants qui sont chassés de l'école. Parce qu'on leur dit qu'ils ne connaissent rien. Peut-être, comme on le dit, c'est des nullards. Ils n'ont pas la capacité d'étudier. Mais cet enfant-là, qu'on a fait sortir à partir de l'école primaire, de l'école, l'enfant est en train de créer des voitures ou bien de réparer des voitures. Mais là où se trouvait le problème pour cet petit enfant? Et puis, par rapport à l'adaptation de la formation que tu nous as parlé, tu vois quelqu'un, il est très courageux, il étudie, il suit ses études jusqu'à l'université, il sort de l'université. Après l'université, on lui recrute dans une entreprise, il vient dans l'entreprise, il ne sait pas comment évolue le travail, où se trouve le problème. Ou bien, il est obligé de faire de nombreux stages ou des pratiques. Mais par rapport à ça, où se trouve maintenant le problème? Quelqu'un qui a étudié ensuite, il est recruté, mais il ne parvient pas à donner son savoir-faire.
Ja. Also sagen wir mal, Usman hat jetzt das Beispiel gesprochen. In der Grundschule werden teilweise Kinder einfach rausgeschmissen und denen wird gesagt, dass sie nichts Nutze sind. Und dann landet dieses Kind irgendwo und repariert Autos und weiß, was Arbeiten ist und repariert und repariert und repariert. Dann war irgendjemand anderes, ist in der Schule geblieben, hat sich gut angestellt, war mutig und hat studiert. Ist nach dem Studium von Praktikum zu Praktikum zu Praktikum gegangen und hat immer noch nicht den Punkt erreicht, dass es sein Wissen preisgeben kann, dass es geführt wird. Also es wird gearbeitet, es wird was getan, aber die Menschen werden eigentlich nicht gesehen oder finden ihren Platz an dem, wie es sein soll, sodass es sich richtig anfühlt und dass es auch dem Land gut tut und den Menschen.
Oui, Ousmane, je suis d'accord avec toi sur la question. Maintenant, pour analyser ce problème et cette problématique, il faut comprendre aujourd'hui que, par exemple, le développement de l'Afrique, le développement de l'Afrique dépendra de l'éducation en phase avec ces problématiques. Le développement de l'Afrique dépendra de l'éducation aujourd'hui de nos enfants face à nos problèmes. On ne peut pas éduquer nos enfants dans la généralité pour répondre à des questions de santé africaine, à des questions de nourriture à l'africaine, à des questions de transport à l'africaine. Non, on ne peut pas. Il faut qu'on change de paradigme. Changer de paradigme, c'est aujourd'hui faire quoi? C'est-à-dire que moi, je dis souvent, ce que je dis souvent, c'est quoi? Dans chaque champ de maïs, dans chaque champ de riz, dans chaque champ d'arachide, au bout de ces champs, il y a ce que j'appelle le développement de l'Afrique. C'est-à-dire que la réussite aujourd'hui de l'Afrique et des Africains, c'est dans les champs, c'est dans nos ateliers. Merci. Imagine-toi, Ousmane. Ouais. Oui, allez-y.
Non, je dis que je suis d'accord.
Donc, allez, on doit retourner à la terre.
Imagine-toi, ouais. Ousmane.
Ouais.
Imagine-toi. Ça, c'est la terre. Ouais. Maintenant, j'en viens à l'élève qui est nul et qui se fait à travers l'atelier dans la rue ou bien dans la mécanique.
Ouais.
Mais regardez, Ousmane. Tous nos réparateurs de téléphones en Afrique n'ont pas été formés.
C'est vrai.
Et ils réparent des téléphones.
C'est vrai.
Tout, c'est incroyable.
Ouais, les téléphones
nous viennent d'Asie, nous viennent d'Europe.
Secteur informel.
Maintenant, dans le secteur informel, tous les jeunes que nous voyons dans l'informatique, qui font de la programmation, qui montent les machines, qui vous vendent une machine ordinateur dernier cri et qui vous montrent le logiciel, il n'a pas été à l'école.
Le problème, est-ce que maintenant, c'est pas la langue aussi?
Le problème, voilà. Hein? Et c'est ça encore, tous les gens qui sortent de l'université maintenant,
aussi.
Tous les gens qui sortent de l'université ne sont bons à rien.
Oh, ouais, à majeure
partie. Il faut qu'on leur apprenne. En majeure partie, il faut que leur apprennent à travailler.
Voilà. Je suis.
Voilà, un peu Tim va faire la traduction.
Ja, also wenn wir von Afrika sprechen, wir wissen ja alle, demografisch gesehen, es ist ein extrem junger Kontinent. Wenn wir über die Entwicklung von Afrika reden, müssen wir über die Bildung von heute reden. Und das wird alles definieren, so wie es sich weitergeht. Und es ist an der Zeit für einen Paradigmenwechsel. Ja, wenn wir von Maisfeldern, auf den Maisfeldern stehen, wenn wir auf den Reisfeldern stehen, dann hat jedes einzelne Feld hat mit der Zukunft von Afrika zu tun, ja. Und dann sieht man Menschen, die einfach, die auf den Straßen arbeiten und, sage ich mal, Handys reparieren. Wie haben die das denn gelernt? Sie wurden nicht dazu ausgebildet. Das sind alles Autodidakten. Und das ist ja eigentlich schon verwundernswert, dass die Menschen da so professionell eigentlich auch in den Bereichen arbeiten, ja. Also die Leute, die üben Berufe aus, die sie eigentlich sich selber beigebracht haben. Und dahinter steckt ja eigentlich ein enormer wissensbegieriger Wille. Und jetzt geht's nur noch darum, wie kann man die Arbeit nur effizient bündeln, so dass es halt allen zugutekommt.
Donc merci, peut-être Moustapha Diouf va nous permettre qu'on va faire une petite pause musicale et après ici on va revenir sur le problème même des institutions financières qu'on appelle les FMI avec les États de l'Afrique, surtout particulièrement au Sénégal, mais aussi on va parler encore le cas du Mali.
Jo, wir machen nochmal eine musikalische Pause, Verstaufpause, um dann weiter über das Thema zu reden hier bei Common Voices auf Radio Korax.
Baby mama gandenga na buhari la mingami Dilo Jorendiawa Hajirin Jorendiawa Mulela Jorendiawa Kusulanti mnyani ba Bebe digi chuka sanu mnyani ba Hajirin chusa mnyani ba
Chers auditeurs de la radio Corax, c'était la chanson malienne proposée par Mariam. Mariam, sur cette chanson, qu'est-ce que l'auteur là nous parlait?
Il parlait en langue soninké. Et malheureusement, je ne suis pas soninké. Mais tout ce que j'ai compris dans la musique, c'est il y a la mélodie que j'aime beaucoup. Mm-hmm. Et puis, il parle de Seri Koko Indi, tararara. Donc, du coup, parce qu'au Mali, il y a plusieurs ethniques. Il y a plusieurs ethnies, on ne parle pas de la même langue, on ne comprend pas aussi la même langue. Mais au Mali, moi, je suis malinké, je ne suis pas soninké, donc je ne comprends pas du tout le soninké.
Tu ne comprends pas du tout le soninké, peut-être je vais laisser Pape Fallou nous parler de son proverbe qu'il a l'habitude de dire par rapport à la musique. La musique, qu'est-ce qu'on parle de la musique?
C'est la langue des émotions.
La musique, par rapport à la musique, tu nous dis que la musique, c'est quoi? Parce que Mariam a proposé une musique, mais elle ne la comprend pas. Mais moi, je ne comprends pas. Mais...
Merci, Ousmane, pour me donner la parole pour participer à cette émission. Donc, tu me demandes la musique. Donc, on a écouté une belle musique, une belle chanson, mais on ne comprend pas ce qu'il dit. Parce que la musique, c'est la langue des émotions, comme disait Kant.
Merci donc de nous avoir parlé un peu sur ça, sur ce thème.
par rapport à la musique, parce que quand on peut ne pas comprendre une musique, mais le sens de la musique nous emporte aussi.
Da sind wir wieder bei Common Voices. Das war gerade eben Musik aus Mali. Und Mariam, unsere Gästin, ist ja aus Mali, hat auch den Song vorgeschlagen. Wir hatten gefragt, worum es denn in dem Song eigentlich ging. Aber sie konnte es nicht sagen, weil es sie ist Malinke und der Song war auf Soninke. Und das sind unterschiedliche Ethnien mit unterschiedlichen Sprachen aus dem Mali. Aber es hat ihr natürlich trotzdem gefallen, weil ihr die Musikart gut gefällt. Und Fallu, unser Philosoph von Common Voices, hat das Ganze noch mit einem Zitat von Kant abgerundet. Musik ist die Sprache der Emotionen und da gibt es nicht viel zu verstehen. Das fühlt man einfach und deswegen haben wir hier gerade alle im Studio ein bisschen getanzt und angeheitert. Unser Thema ein bisschen vergessen, nämlich heute Thema Afrika im Aufbruch und die Entwicklung des afrikanischen Kontinents zu bereden. Da sind wir wieder in den letzten 10 Minuten hier bei Common Voices.
Peut-être, Fallu, qu'est-ce qu'on parle toujours des problèmes de l'Afrique. Mais pour toi, quel est le problème majeur de l'Afrique?
Fallu, du bist ja jetzt nur dazugestoßen. Willkommen bei uns im Studio. Wir haben über viele Probleme heute geredet vom afrikanischen Kontinent, die hinderlich sind und der Entwicklung im Weg stehen. Was sind denn für dich Probleme, die dir jetzt einfallen oder im Allgemeinen darüber, was du zu sagen hast?
Merci d'abord, Ousmane. Donc, vous me posez la question, quel est le problème de l'Afrique? Donc, vous parlez le développement de l'Afrique qui a freiné le développement de l'Afrique. Et si on parle de développement, on va parler l'économie. Et vous parlez les bases de l'économie, vous parlez l'agriculture, l'industrie et vous parlez le transport. Donc, l'Afrique a un grand problème par rapport à l'industrie. Donc, nous on a des problèmes de l'industrie, on a des problèmes de transport, on a des problèmes de l'économie. Mais moi, ce que j'ai constaté, on peut développer sur l'agriculture. Parce que l'Afrique a des terres russes.
Ja, danke erstmal, mir die Frage zu stellen. In vielerlei Hinsicht wird die Entwicklung des afrikanischen Kontinents ausgebremst und ihr habt ja schon einige Themen heute schon angesprochen, wie Bildung, den Transport, die Industrie, die Wirtschaft und auch die Landwirtschaft. Und im Letzteren, also in der Landwirtschaft, liegt auch laut Fallu die Lösung, das auszubauen, weil es gibt sehr viel Land.
J'ai écouté aussi Mariam, elle a parlé du travail parce qu'elle a dit que les gens ne travaillent pas. Mais le travail ne développe pas le pays. Parce que il y a deux façons de travailler, comme l'a dit Karl Marx dans son livre, que les Allemands avaient fait à cause des bourgeois et les prolétariats. Les gens travaillent le maximum et ils gagnent un peu. Donc le travail, ce n'est pas le problème. D'abord, parce que le travail physique, il y a deux façons de travail physique. Le travail physique et le travail intellectuel. Donc le travail physique morcifie son corps et ruine son âme, l'a dit Marx. Donc le travail ne peut pas développer. Donc,
merci. Donc, let's faire.
Ja, und dann hatten wir ja vorhin diese hitzige Diskussion darüber, über die Arbeitsmoral. Man muss halt einfach arbeiten und dann passiert alles. Da möchte Fallu auf jeden Fall einwerfen. Arbeit allein macht nichts. Ja, ein bisschen Karl Marx. Also es gibt ja unterschiedliche Einteilungen. Es gibt körperliche Arbeit und intellektuell. Und es gibt viele Leute, die sehr viel arbeiten und aber wenig hängen bleibt. Und das ist vielleicht auch eine Frage der Klassen. Der Klassenunterschiede, wer verdient für welche Arbeit. Und da ist es auch ein großes Ungleichgewicht im afrikanischen Kontinent zu sehen.
Non, Fallu, peut-être par rapport à ce que tu as dit, Mariam n'est pas d'accord. Hein? Il a dit que le travail ne développe pas un pays.
Eh ben, le travail développe bien sûr un pays. Mais le travail développe bien sûr un pays. Sans travailler, on ne peut pas développer le pays. L'Europe ne s'est pas développée comme ça, la Chine non plus. Donc, il faut travailler pour développer. Peut-être, c'est que là où je suis d'accord avec lui, il faut travailler dans les deux sens. Le travail physique, en même temps, le travail intellectuel. Ah, les merci, deux se ouais. joignent.
Und beide...
Parce qu'il faut penser d'abord pour réaliser.
Und man muss natürlich, wir hatten ja auch über die Effizienz von Arbeit gesprochen, also es ist vielleicht schlau, die intellektuelle und die körperliche Arbeit Hand in Hand gehen zu lassen und darüber nachzudenken, wie man das Ganze effizient macht, denn ohne Arbeit kann keine Entwicklung vonstatten gehen.
Donc peut-être l'émission tire à sa fin, l'émission est très important, on pourrait parler beaucoup de choses, mais il y a aussi un cas, parce qu'on parle de l'Afrique, on ne peut pas parler de l'Afrique sans autant parler de FMI. Mm-hmm. FMI, c'est quoi aussi? Et quel problème majeur il nous apporte cette institution internationale? Peut-être on va laisser d'abord avec Moustapha, il va nous éclaircir la définition de FMI, c'est quoi? Et puis le problème, parce qu'actuellement, Mali a un problème mm-hmm. sur le terrain. Mm-hmm. Mais le Sénégal aussi a un problème. Mm-hmm. Mais son problème, c'est purement économique. Mm-hmm. Peut-être au Mali, le problème est fait avec les djihadistes. Mais nous, actuellement, il y a le FMI qui est derrière le Sénégal qui veut le talonner. Parce que pourquoi ? Mm-hmm. Parce qu'actuellement, les nouvelles autorités ne sont pas avec la politique occidentale ou bien la politique française.
Ja, lassen wir doch mal dieses FMI-Thema noch mal einbringen. Vielleicht kann Mustafa Kamara noch mal uns erläutern, was denn FMI ist und da noch mal diese ökonomischen Probleme, die Senegal wie aber auch Mali betreffen, vielleicht ein bisschen ins Spiel bringen.
Peut-être Mustafa, tu vas nous parler un peu de la situation économique qui règne au Sénégal. Il paraît que il a un problème technique. Peut-être on va continuer. Parce qu'actuellement, le problème qui fait valer, c'est avec le FMI. Le FMI, c'est-à-dire le Front Monétaire International. C'est une institution financière. Le FMI, lui, c'est une banque financière qui finance les États, le plus souvent les États africains. Mais après financement, il leur dicte leurs lois, il leur canalise sur l'orientation des ressources qu'il les a données.
Mm-hmm. C'est une banque.
Ouais. Mm-hmm. C'est le Front Monétaire International. Okay. Donc c'est une sorte comme une banque internationale. Mm-hmm. Il finance, il prête les États africains le plus souvent, mm-hmm. mais ensuite il ne les laisse pas. Il les oriente. Après les avoir prêté de l'argent, il leur dicte mm-hmm. comment ils doivent utiliser aussi ces.
Also es gibt einen großen Player im afrikanischen Kontinent, FMI genannt, Front Monetaire International, also eine Art Bank, die für den ganzen afrikanischen Kontinent ansprechbar ist und bereit ist, Geld zu leihen. Allerdings meist sind diese mit Bedingungen zusammen verknüpft, die dann sehr schädlich sein können im Nachhinein für die Länder, die das Geld geliehen haben.
Le plus souvent, comme vous le savez, tous les États, ils empruntent pour financer soit les hôpitaux, pour créer, pour financer les écoles. C'est auprès de FMI que le plus souvent nos États empruntent.
Et les conséquences, par exemple?
La conséquence, ouais. il a dit que la conséquence, c'est que
après, on va
quand les FMI prête de l'argent, après les FMI est là pour dicter ce que le Sénégal doit faire avec cet argent, ou bien quand le Sénégal a des bénéfices, comment il doit faire, comment il doit, donc le Sénégal n'aime pas qu'on le dicte.
Qu'est-ce qu'il dicte, par exemple?
Par exemple, si tu finances de l'argent, ils vont te dire, c'est là que tu dois construire soit une école ou bien un hôpital. Mm. Mais ceux qui vont, les entreprises, ceux qui vont prendre, gagner le marché, ça sera des étrangers.
Okay, also FMI, die Bank, leiht sozusagen den afrikanischen Ländern das Geld und sagt, ja, du kannst das Geld haben, aber dann musst du im Nachhinein das und das für uns tun. Ja, und das entwickelt sich dann zu einem Diktat im Endeffekt, wo die Länder gar nicht mehr rauskommen und auch in der Abhängigkeit bleiben.
J'aimerais intervenir de ce côté-là, Ousmane. Par exemple, quand tu as un projet, tu as une association, tu as une entreprise, toi, tu veux répondre à des appels à projet pour financer ton projet. Ou bien tu demandes un financement pour ton projet. Chaque projet, il y a des financements. Si toi, tu cherches, tu veux prendre le financement pour construire une école, tu veux aller l'investir dans l'agriculture, mais le financier, il va te dire non. Parce que l'argent est là pour ça. Donc, du coup, il faut que les États aussi qui demandent le financement n'abusent pas.
Sur ça, ouais.
Et je ne peux pas demander le financement pour faire la maison et après je vais aller faire la route. Ou bien prendre le financement de la route pour aller faire le champ des cacahuètes. Ah non. Donc quand tu prends le financement pour faire quelque chose, tu le fais parce qu'après tu dois faire un compte rendu et dire l'argent est parti là et là. Si l'argent a été suffisant ou pas, et après voilà, il faut faire un retour.
Oui, parce que là-bas, en termes financiers, c'est ce qu'on appelle le détournement d'objectifs. Tu avais prêté l'argent pour ça et tu l'avais fait pour l'autre.
Donc,
mais par rapport à ça, il y a plus grave que ça.
Okay.
C'est là même qu'on veut parler tout à l'heure même. Par rapport et le rapport actuellement FMI et le Sénégal.
Traducteur, il est fatigué. Ouais. Je ne comprends pas, il est fatigué.
Ouais.
Mais le problème avec Sénégal, ok.
Oui, le problème en est que le Sénégal est endetté auprès de la FMI. C'est l'ancien régime qui était là-bas, qui est endetté auprès de la FMI. Mais chaque pays, on a donné une barrière que tu ne dois pas dépasser. On a dit que tu ne dois pas dépasser 70% de ton production intérieure brute.
Ja, und also diese Bank spielte sozusagen eine essentielle Rolle, dass sozusagen am Endeffekt die Länder sich Geld geliehen haben, das ausgegeben haben für etwas, was sie gesagt haben und dann aber diese Konditionen erfüllen müssen. Und wenn sie es nicht können, dann verschulden sie sich erneut und sind noch weiter in die Abhängigkeit geraten.
Et le problème, il y avait l'ancien régime qui avait dépassé cette barrière. Il avait endetté, il avait fait beaucoup de dettes par rapport à ça. Mais le nouveau régime, quand ils sont venus, ils ont dit que c'est eux qui ont démontré à FMI que l'ancien régime, il cachait des dettes. Et il les mentait à chaque fois.
Und dann war es zum Beispiel so, dass es jetzt einen alten Machtwechsel gab, vor allem im Senegal, nach einer langen Zeit. Und das alte Regime hat Schulden geheim gehalten, die nicht offengelegt waren. Und dass das sozusagen dann ins neue Regime weitervererbt wurde und die Probleme sich dann noch potenzieren.
Le fait de défulquer la vérité par rapport auprès de FMI, ce que faisait l'ancien régime, raison pour laquelle la FMI a dit maintenant, il ne veut plus. Par rapport à ça, la dette du Sénégal est très élevée, donc ils ne vont plus lui faire des prêts pour lui prêter de l'argent.
Und das hat dann wiederum dazu geführt, dass FMI gesagt hat, die Bank hat gesagt, wir werden Senegal nichts mehr leihen, weil Senegal ist hochverschuldet und das wird uns nichts bringen.
Ah ben, il faut que le Sénégal aussi refuse le prêt et aussi ferme le robinet des FMI au Sénégal. Parce que le Sénégal et les FMI aussi a des intérêts au Sénégal. Donc il faut que le Sénégal aussi augmente ses intérêts-là pour pouvoir payer ses dettes. Ah ouais, il faut...
c'est ce qu'a fait le nouveau régime actuellement. Eux, ils ont préféré maintenant, comme la FMI leur a tourné le dos, eux, ils ont préféré de faire le propre financement, de prendre d'autres systèmes de financement.
Und das ist dann der Zustand passiert, dass sozusagen das aktuelle Regime sich auf die Autofinanzierung, also Selbstfinanzierung gesetzt hat und der FMI den Rücken zugewandt hat, um halt selber unabhängig zu sein und trotzdem an das Geld ranzukommen.
Donc, cher auditeur de la Radio Corax, l'émission tire à sa fin. Donc on va terminer cette émission avec une pause musicale. On va écouter donc la musique de Titi.
Okay.
Enfin, merci à Tim, merci à Ousmane, merci à Monsieur Camara, merci à notre jeune frère aussi. Comment tu t'appelles déjà?
Fano.
Fano.
Fano, donc merci à tout le monde.
Danke, ihr lieben Common Voices. Wir sind völlig ermüdet und fertig und kommen mit Titi zum Ausklang dieser Sendung bei Common Voices.